magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, bienvenue au magazine des Nations Unies. Au sommaire de cette émission, comparution jeudi dernier à la Cour pénale internationale du leader du MLC Jean-Pierre Bemba, de son avocat Aimé Kilolo et du député Fidèle Babala. Ils sont accusés d'usage de faux et de corruption de témoins dans le cadre du procès de l'ancien vice-président. Entre-temps, la MONUSCO et l'UNICEF réagissent à la traque des Kuluna dans la capitale. Les détails dans la rubrique Actualité de la semaine. Toujours dans cette émission, la journée consacrée à la lutte contre les violences faites à la femme, célébrée le 25 novembre dans le monde. En RDC, la MONUSCO a organisé des activités à cette occasion. Notre invité en parlera dans cette émission. Trop peu de femmes ont des informations sur les méthodes de planification familiale. Pour pallier ce déficit, une campagne d'offres gratuites de ces services de planning familial a eu lieu à Lubumbashi avec l'appui du FNUAF. Ce sera notre nouvelle de province.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour Jean-Pierre Bemba, son avocat Aimé Kilolo et le député MLC Fidèle Babala devant la CPI. Ils ont comparu le jeudi 27 novembre. L'ancien vice-président de la République et ses proches sont accusés d'avoir produit des faux documents et d'avoir corrompu les témoins dans le cadre du procès Bemba. L'ancien vice-président de la RDC est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité entre 2002 et 2003 en Centrafrique. À La Haye, Stéphanie Maupas pour Radio Capi.
La défense du suspect, Aimé Kilolo, qui est aussi l'avocat de Jean-Pierre Bemba dans son procès pour crime contre l'humanité, a jeté la suspicion sur les motivations qui, selon lui, se cacheraient derrière ces mandats d'arrêt. D'après la défense, les documents qui auraient été fabriqués ou falsifiés faisaient déjà l'objet de débats confidentiels dans le procès principal de M. Bemba. Rappelant qu'il a été arrêté à l'aéroport de Bruxelles de retour d'une mission, Maître Kilolo a regretté que le procureur n'ait pas jugé bon de le citer à comparaître, alors même qu'il passe le plus clair de son temps dans les locaux de la cour à La Haye. Son avocat, qui a annoncé qu'il demanderait une mise en liberté provisoire, a aussi demandé que soit remise à son client son iPad et son BlackBerry saisis lors de l'arrestation et qui contiendrait toute la théorie de la défense dans l'affaire Bemba. S'exprimant à son tour, le député Babala Wandou a dénoncé ses conditions d'arrestation effectuées dimanche à 2h du matin par 30 policiers sous le regard de ses enfants. Son avocat a l'intention de contester la légalité de cette arrestation, de demander la libération provisoire de son client et a estimé aussi que le député bénéficiait de l'immunité au regard de la constitution congolaise. À La Haye, Stéphanie Maupas, Hirondelle News pour Radio Okapi.
Dans l'entretemps, à Kinshasa, le bureau de la CPI RDC a tenté de donner les raisons de l'arrestation et du transfèrement de Fidèle Babala et de Maître Aimé Kilolo à La Haye. Patrick Tchibouyi, assistant en communication de la CPI bureau RDC, s'est exprimé au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Mercredi dernier, il est au micro de Donna Madimba.
Pour le moment, ces personnes sont présumées innocentes. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a délivré un mandat d'arrêt, que forcément ces personnes sont reconnues coupables de ces atteintes. Donc il y a un processus qui est en marche et ce processus va permettre justement de pouvoir faire la manifestation de la vérité pour savoir ce que l'on est exactement. Ce n'est qu'à l'issue de ce processus qu'une décision sera rendue pour voir si effectivement ces personnes seront reconnues coupables ou non des atteintes à l'administration de la justice. Donc il n'y a pas d'acharnement, ce sont deux affaires tout à fait différentes. Aujourd'hui, dans la première audience de comparution devant le juge de la chambre préliminaire, si les charges sont confirmés, on aurait éventuellement un procès par rapport à ces charges. Et donc, à ce moment-là, on saura exactement ce qu'il en est à l'issue du procès. Bon, maintenant, pour ce qui est, par exemple, des peines, le statut prévoit que pour les atteintes, la peine maximum ne peut pas dépasser 5 ans.
Autre nouvelle d'actualité de la semaine, réaction conjointe MONUSCO-UNICEF sur la traque des Kuluna à Kinshasa. Les deux institutions des Nations Unies ont fait état des allégations d'exécution extrajudiciaire des jeunes et d'enfants. Jean-Pierre et Lali Coco pour les détails.
Dans un communiqué publié mercredi 27 novembre, la MONUSCO et les Fonds des Nations Unies pour l'Enfance disent avoir reçu au cours de ces derniers jours des rapports faisant état de la disparition et de l'assassinat de jeunes gens et d'enfants dans certaines communes de la capitale. Ceci coïncide avec le début de l'opération Likofi, coup de poing lancé le 15 novembre 2013 par les autorités congolaises afin de juguler la délinquance urbaine, précise le communiqué. Ainsi, au moins une vingtaine de personnes, dont 12 enfants, auraient été tués dans cette vague, affirment les deux institutions onusiennes, se basant sur des informations reçues et en cours de vérification. Alors, l'UNICEF et la MONUSCO demandent aux autorités de la RDC de mettre immédiatement fin à ces actes et de faire diligenter des enquêtes par les autorités judiciaires afin de traduire en justice les responsables conformément au code pénal congolais. Les deux organisations rappellent que l'État doit en toutes circonstances faire respecter les droits humains et assurer que les enfants bénéficient d'une protection particulière selon la loi congolaise et les traités et conventions internationales.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le gouvernement congolais présentera son rapport sur la situation des droits de l'homme en RDC en mai 2014 prochain devant le Conseil des droits de l'homme. Cela dans le cadre d'un cycle intitulé Examen périodique universel. Ce concept est l'objet du décryptage de cette semaine et pour cela, Honoré Missenga s'entretient avec Maïmouna Tankwano Doussa. Elle est du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui a organisé un atelier à l'intention des ONG de droits de l'homme pour qu'elles harmonisent leurs vues par rapport à leur plaidoyer en matière des droits de l'homme.
Madame Maïmouna Tankwano Doussa, bonjour.
Bonjour.
Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme organise à l'intention d'un certain nombre d'ONG des droits de l'homme un atelier sur les pays, c'est-à-dire l'examen périodique universel. C'est quoi EPU, examen périodique universel?
Merci Honoré de nous donner l'occasion d'expliquer ce que c'est que l'EPU. En fait, l'EPU, en abrégé, c'est l'examen périodique universel, qui est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme qui permet l'examen de chacun des 193 États membres des Nations Unies de voir s'ils respectent ses obligations et engagements en matière de droits de l'homme.
Pourquoi périodique? Quel est le délai?
En fait, le délai, c'est un cycle. C'est-à-dire, l'examen périodique universel est un mécanisme d'un cycle de 4 ans et demi qui permet donc à chaque État de passer à ses périodes programmées pour exposer l'état d'engagement ou le respect de ses engagements sur les droits de l'homme.
C'est pourquoi il est universel?
Il est universel parce que tous les États passent par l'examen périodique universel. Aucun État n'est épargné. Que vous preniez les grandes puissances comme les pays en développement.
À quand le passage de la République démocratique du Congo?
Le passage de la République démocratique du Congo est prévu pour 2014, d'où toutes les actions qui sont menées pour préparer la revue du rapport de la RDC.
C'est ce qu'explique l'organisation de cet atelier.
Oui, cet atelier n'est qu'un élément dans le processus, c'est-à-dire que les ONG que nous appuyons pour cet atelier se préparent à voir comment ils peuvent influencer de façon consensuelle et parler le même langage le rapport de l'État. Effectivement, le gouvernement a le devoir d'opérer une large consultation de tous les groupes sociaux professionnels et tous les groupes de la société congolaise.
Comment, Madame Ayumuna, concrètement les ONG peuvent-elles participer à l'élaboration du rapport que devra présenter la RDC?
Comme on vous a dit, c'est un cycle de 4 ans et demi qui commence déjà par la préparation des informations et en vue de l'examen. Et l'État commence d'abord par avoir des renseignements au moyen de larges consultations nationales avec des rapports nationaux. En fait, les ONG peuvent participer dans ce processus de plusieurs manières. D'abord, en préparant eux-mêmes des rapports qu'ils soumettent au Conseil des droits de l'homme, qui les prend en compte indépendamment du rapport de l'État congolais. Ensuite, quand ils sont accrédités, parce que c'est une conditionnalité, ces ONG peuvent participer à la session du groupe de travail en tant qu'observateurs. Seulement observateurs, car ils peuvent observer les débats sans faire de déclarations orales. Ils peuvent également, selon donc les ONG qui sont dotées de statut consultatif auprès du Conseil économique, sociale des Nations Unies, ils peuvent participer à la session plénière du Conseil des droits de l'homme en tant qu'observateur. Autre chose, c'est que l'État a fait un examen à mi-parcours. C'est quelque chose sur lequel il faut insister parce que c'est de façon volontaire que l'État s'est soumis à cette évaluation à mi-parcours qui leur permet de faire le point de l'état d'avancement des recommandations. Effectivement, après la présentation du rapport, les autres États parties du Conseil émettent, proposent des recommandations aux États qui peuvent les accepter ou ne pas les accepter. Donc, l'État ayant accepté 132 recommandations, a fait une évaluation à mi-parcours que nous saluons d'ailleurs, qui leur permettra d'avancer et de voir ce qu'ils peuvent rectifier. Maintenant, à la présentation du prochain rapport, ils auront encore d'autres recommandations. Donc, les ONG, dès le départ dans le pays, au Congo, les ONG congolaises, peuvent être consultées et doivent être consultées. C'est ça qu'on appelle la large consultation dans les États. Et ils peuvent influencer et mettre des propositions à l'adresse du gouvernement pour l'élaboration de leur rapport.
Et Madame Aïmouna, le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme travaille en partenariat avec les ONG nationales et internationales, travaille également avec le gouvernement. Quel est concrètement votre travail vis-à-vis des ONG, vis-à-vis du gouvernement?
Bon, il faut noter que le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme n'est qu'une branche, un élément de la MONUSCO. Et la MONUSCO, c'est la mission des Nations Unies. Et nous sommes là pour appuyer les efforts du gouvernement dans tous les domaines. Et nous, c'est sur les droits de l'homme. Donc, nous appuyons l'État congolais dans ses efforts. Nous appuyons les institutions de l'État. Nous appuyons le gouvernement d'une manière générale.
Oui, concrètement, en quoi consiste cet appui financier, technique, concrètement?
C'est surtout technique. Financier, vous savez que c'est l'État qui est le premier responsable de la mise en œuvre, de la promotion et de la protection des droits humains. Par conséquent, nous, on ne fait qu'appuyer techniquement par des appuis conseils, comme on dit. Si vous voyez, par exemple, pour cet atelier, nous sommes là en tant que personnes ressources. Nous sommes là en tant que conseillers juste pour faciliter le travail des uns et des autres. Le travail qu'on fait ici avec les ONG, on le fait également avec le gouvernement, à travers le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, à travers les autres ministères qui sont plus ou moins en relation avec les droits humains. Maintenant, avec les ONG, on fait des ateliers comme ces gens. On appuie la révision des textes de loi avec le gouvernement, avec le Parlement, pour influencer l'adoption ou l'écriture des textes en relation avec les normes internationales.
Madame Aïmouna Tankoana Doussa, merci de votre disponibilité pour le magazine des Nations Unies.
Place à nos nouvelles en bref à présent. Comment lutter contre les stigmatisations et les discriminations dont sont encore victimes les PVV, personnes vivant avec le VIH, dans le cadre d'une politique globale des réponses nationales à la pandémie du sida en RDC? C'est le but d'un dialogue national sur les lois, les droits humains et le VIH-sida. Ce forum s'est tenu à Kinshasa du 26 au 27 novembre, avec l'appui notamment du PNUD et de l'ONU-sida. Il a réuni des acteurs venant du gouvernement, du parlement, de la société civile, ainsi que des organisations des PVV. La discussion a été axée notamment sur la nécessité de réviser la loi portant protection des PVV, promulguée le 14 juillet 2008. L'une des dispositions de cette loi criminalise la transmission volontaire du VIH-Sida. Le 6e forum de dialogue politique de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation pour tous s'est tenu à Kinshasa. Il a été organisé avec l'appui de l'UNESCO. Plus de 200 participants nationaux et internationaux ont pris part à ces travaux qui visaient à élaborer des recommandations sur les manières efficaces de gérer la formation des enseignants, en particulier pour les groupes défavorisés. Au cours de ces assises, les participants se sont particulièrement penchés sur la gestion de la formation des enseignants dans le pays. L'UNESCO précise que la RDC compte actuellement 345 486 enseignants du primaire, dont 323 188 sont formés. Fin de la visite du directeur de la division Afrique de l'Ouest et du centre du Fonds international de développement agricole. Idès de Villebois est venu palper du doigt les réalités sur le terrain à Kindu et à Kasongo dans la mise en œuvre du programme intégré de la réhabilitation de l'agriculture dans le Maniema. Ce programme ou projet d'une durée de 9 ans arrive à la fin de sa première phase de 3 ans de réalisation. Au cours d'un point de presse mardi à Kinshasa, le directeur de la division Afrique de l'Ouest du centre du Fonds international de développement agricole a donné les résultats de ce projet. Il a aussi épinglé les difficultés rencontrées.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le 25 novembre, c'est la journée internationale consacrée à la lutte contre les violences faites à la femme. Le bureau genre de la MONUSCO a prévu un certain nombre d'activités en rapport avec cette journée, dont certaines iront jusqu'au 10 décembre 2013. Comme invité du jour, le magazine des Nations Unies reçoit Elsie Fange Mbella, chef du bureau genre. Elle répond aux questions d'Honoré Missengakalala.
Madame Elsie Fange Mbella, bonjour.
Bonjour.
Le 25 novembre est consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes. Comment le bureau genre de la MONUSCO voit cette journée dans le contexte de la RDC cette année?
Dans le contexte de la RDC, je crois que cette journée est une journée très importante, non seulement pour les victimes de violences sexuelles, mais aussi pour nous autres qui les accompagnent et qui travaillent dans ce domaine de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre et toute autre forme de violence contre les femmes.
Est-ce que vous pouvez nous énumérer les violences faites aux femmes les plus courantes en République démocratique du Congo?
Oui, les plus courantes, c'est les violences sexuelles en conflit, surtout le viol, et aussi violences par rapport à leurs droits. Par exemple, manque de parité dans tous les domaines en ce qui concerne surtout la prise de décision. Et vous savez vous-même qu'il y a pas mal de lois qui sont au Parlement par rapport à la parité de genre. Et ça, c'est en réponse à cette violence faite à la femme par rapport à sa participation politique.
Alors, madame, revenons un peu à la journée. Est-ce que le bureau genre de la MONUSCO a organisé quelques activités par rapport à cette journée?
Bien sûr. Vous savez que 16 jours d'activisme, ça va du 25 novembre jusqu'au 10 décembre. Donc, la semaine prochaine, un atelier par rapport à l'appui au comité de pilotage national pour élaborer ces règlements intérieurs. Vous savez que la MONUSCO et l'équipe de pays des Nations Unies ont aidé le ministère à établir le plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 ici au Congo. Et cette plan d'action national a un grand volet qui s'occupe des violences sexuelles basées sur le genre et aussi la lutte contre le VIH-SIDA. Donc, la mise en œuvre de cette plan d'action national passe par les mécanismes de coordination et de règlement, intérêt de ces mécanismes de coordination. Donc, on a misé sur ça. Et puis, cet atelier va avoir lieu le 2 et le 3
décembre,
oui. Et aussi, à la fin de l'atelier, on programme quelque chose à Rutshuru, dans les zones libérées pour accompagner ces femmes-là, les mobiliser par rapport à ces violences sexuelles basées sur le genre et les écouter aussi par rapport à leurs besoins parce que ce sont les femmes qui ont beaucoup subi pendant la guerre et donc on est en train de faire un recensement de leurs besoins, y inclus par rapport aux violences sexuelles basées sur le genre.
Il y aura des actions concrètes en faveur de ces femmes?
Oui, bien sûr, il y aura des actions concrètes. Vous savez que la MONUSCO a plusieurs sections qui s'occupent des violences sexuelles basées sur le genre. Il y a ma section, il y a la section de violences sexuelles et il y a la section appui à la justice et la section Corrections Unit. Toutes ces sections-là s'occupent des questions de violences sexuelles. Et même il y a une section pour la protection des enfants. Et ces enfants, ça inclut les filles, etc. Donc, on s'occupe de plusieurs volets par rapport aux violences faites aux femmes à la MONUSCO.
Le président de la République, Joseph Kabila, a promis récemment de nommer son représentant chargé des violences sexuelles. Comment vous avez accueilli cette promesse du chef de l'État congolais?
Je crois que pour nous, c'est vraiment l'appui au plaidoyer qu'on a commencé depuis fort longtemps. Et on apprécie ce message du président de la République et sa participation personnelle maintenant à cette plaidoyer. Et ça montre que le pays peut aller au-delà des lois même qu'ils ont fait pour entrer dans la réalité de leur application. C'est comme ça que je vois cette promesse de nommer quelqu'un qui va s'occuper au niveau de la présidence des aspects de violence sexuelle. Vous savez que plusieurs choses se sont passées cette année. Au mois de mars, quand Mme Bangoura est le représentant spécial du secrétaire général en ce qui concerne les violences sexuelles était venue ici, il y a eu le communiqué conjoint avec le Premier ministre sur les violences sexuelles. Donc je crois que cette promesse de la présidence est en appui à ce communiqué conjoint qui a été signé et qui va un pas en avant de cet appui. Donc ça augure bien et je crois que ça doit réconforter non seulement les victimes de violences sexuelles, mais ça ouvre encore la voie pour les gens qui œuvrent dans ce problème de violence faite aux femmes, d'avoir un pas et l'appui du gouvernement au niveau de la présidence pour combattre ces fléaux.
Dans les violences faites à la femme, il y a, c'est d'une manière générale, il y a les violences faites à la fille. Est-ce qu'il y a des actions particulières par rapport aux filles congolaises?
Oui, des actions concrètes par rapport aux filles congolaises, on en fait tous les jours. Et le bureau Jean a en particulier un centre, Bukavu Bunyakiri, qui accueille les filles, non seulement qui ont été violées, mais aussi les filles mères et aussi les femmes veuves, pour leur apprendre les métiers et pour pouvoir se réhabiliter dans la vie socio-économique. On va continuer avec ça. Et en partenariat avec beaucoup de monde, on travaille avec l'église, on travaille avec les réseaux de femmes pour appuyer les filles mères et ces travaux vont continuer. On a à Kisangani un centre qui a été ouvert justement pour accompagner ces filles mères-là et de pouvoir monitorer et évaluer leurs progrès et leurs besoins et on va continuer dans ce sens. Et partout et surtout aussi dans les zones libérées, on va se pencher sur ces filles mères. Il y a les filles qui ont été désarmées, les ex-filles combattantes avec lesquelles on est en contact. Elles ont aussi exprimé la nécessité de soit repartir à l'école et soit d'apprendre un métier qui va les aider à se réhabiliter dans la vie. On va se pencher sur eux, on va les aider dans cette réhabilitation socio-économique.
Madame Essi Efang Mbela, merci de votre disponibilité.
Nouvelle de province, au Katanga, trop peu de femmes ont des informations sur les méthodes de planification familiale. D'où cette campagne d'offres gratuites des services du planning familial lancée mardi dernier dans la ville de Lubumbashi avec l'appui du FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population. Denise Maéo était sur place, elle nous en parle avec détail.
Au Katanga, 2 femmes sur 100 utilisent les méthodes de planification familiale. 81% des femmes dans la province n'ont jamais entendu parler de la planification familiale, ce qui a pour conséquence un taux élevé de naissances, soit une moyenne de 8 enfants par ménage. Ces statistiques de 2010, avancées par le chef du bureau décentralisé de UNFPA au Katanga, démontrent le niveau faible d'information sur les méthodes de planification familiale. Pour élever le niveau, UNFPA a formé les pères éducateurs. Dr Maya, chef du bureau décentralisé UNFPA Katanga.
Ce sont les pères éducateurs, femmes et hommes, donc c'est mixte. C'est toujours un homme et une femme qui vont dans un foyer sensibilisé au niveau de la communauté. Ceci dans l'objectif de pouvoir approcher les services auprès des utilisateurs afin que l'accessibilité soit optimale.
La cérémonie de ce mardi a été une nouvelle occasion de sensibilisation et Thérèse Lukenge, ministre provinciale du genre, a pris l'engagement de renforcer cette opération. UNFPA a aussi plaidé auprès du gouvernement provincial afin que ce dernier signe un arrêté instruisant les médias à diffuser des messages de sensibilisation sur le planning familial. Lubumbashi, Denise Mayor, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. À cette occasion, le magazine des Nations Unies vous propose cette question posée par un élève à la journée d'information organisée par l'UNESCO et l'ONU Sida avec des jeunes. Écoutez.
Je m'appelle Bande Kondofusu, élève de la 6e littéraire à l'Athénée de la Gombe. Ma question est de savoir, malgré l'abstinence, la fidélité et le préservatif, nous constatons qu'il y a toujours la présence du VIH-Sida. Qu'est-ce que vous en pensez?
Suivez la réponse du docteur Gabriel Tsakala, expert UNESCO.
Pourquoi malgré tout, le sida est toujours là? Après 30 ans de lutte, aujourd'hui, le rapport ONU-Sida dit que nous avons pu stabiliser l'épidémie, du moins de manière générale à travers le monde. Mais dans chaque pays, il y a toujours des réalités. Mais c'est vrai que chez les jeunes, les nouvelles infections continuent. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a un déficit d'information. Vous-même, vous savez, quand vous vivez, comment on vous parle de ces choses. Il y a à peine 2-3 spots à la télé, jeunes, fidélité, préservatif et tout ça, point. Mais personne ne s'intéresse à savoir ce que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est une lutte. À 8 ans, vous ne rêvez pas sexe. Vous ne saviez pas ce que c'est le sexe. Mais à 12, 13, 14 ans, vous commencez à y penser. Ce n'est pas de par vous-même. Mais c'est l'action physiologique qui est en train de se faire en vous pendant cette période-là qui réveille vos sentiments. Et donc nous devons savoir comprendre ça lorsque nous sommes en train de nous entretenir avec vous. Il y a des choses qu'on peut vous demander, mais qui réellement est impossible. Moi je fais des enquêtes pour demander entre l'abstinence, la fidélité et toi, qu'est-ce que vous trouvez facile chez les élèves? À 30%, 30%, donc ça c'est facile, ça c'est difficile. Donc c'est là où nous disons, il y a ça, il y a la prévention qui n'a pas bien suivi. L'école n'a pas un programme, les nouveaux programmes commencent à peine. Dans vos maisons, est-ce que vous en parlez ouvertement avec le parent? Faudrait-il encore que vos parents aient plus de connaissances sur ça? L'église a pris son option, ne parle que abstinence. Et les médias nous diront comment ils abordent cette question avec les jeunes. Et vous vivez dans un environnement où tous les artistes et musiciens qui conditionnent votre vie, chacun vous invite dans la sexualité. Suivez tout ce que vous fredonnez là, vous verrez que chaque artiste est en train de vous amener dans la sexualité. Et quand vous voyez la publicité de la bière qui passe à longueur de journée, vous verrez que c'est vraiment des messages subliminaux où derrière ça, on vous invite à la sexualité. Ces données-là sont au devant et notre prévention suit après. C'est pour ça que nous voulons quand même tirer le taureau par les cordes.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je me nomme Duver Kilembe Kimok, originaire de la RDC, marié et père de 4 enfants, dont un garçon et 3 filles. Actuellement, je suis le coordonnateur régional de l'ONU avec nous, en anglais UN CARES, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je suis basé à Dakar, logé par le bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population. Et j'ai fait mes études primaires ici en RDC, notamment dans la province du Bas-Congo, à l'Institut Bumamungu, dans la ville de Boma au Bas-Congo, avant de passer mes études secondaires au petit séminaire de Mbatakiela, dans le Bas-Fleuve. C'est après cela que je suis venu à l'université de Kinshasa, où j'ai passé mes études en sciences économiques, notamment dans l'option économie publique et industrielle. Donc je suis licencié en sciences économiques de l'université de Kinshasa. Après aussi, on fait des études un master en management public à l'université William Booth, ici à l'Armée du Salut. Mes activités quotidiennes, c'est la coordination de toutes les activités qui concernent l'ONU avec nous dans la région. Donc je couvre 25 pays et mes tâches, c'est de faire le suivi, de faire des formations, d'appuyer un renforcement des capacités à tous ceux qui sont affectés à cette tâche dans les différentes agences des Nations Unies au sein de pays. Mais je le fais notamment à travers les équipes pays, parce que dans chaque pays, nous regroupons le point focal UN CARES des agences au sein d'une équipe que j'essaie d'appuyer. Dans mes temps libres, j'aime bien écouter la musique, notamment la musique religieuse congolaise. J'aime beaucoup Alain Moloto, paix à son âme. J'ai fait aussi du sport quotidiennement, c'est presque tous les jours, j'ai fait du sport en salle, mais aussi par moments je pratique la marche. Mes préférences, en ce qui concerne peut-être le reste, j'aime bien la promenade, me retrouver peut-être au bord de l'océan, prendre de l'air, mais aussi surtout la collaboration, ou plutôt j'allais dire l'amitié. J'aime bien développer les relations, donc je suis toujours entouré du monde partout où je suis. J'oublierai pas, j'insisterai surtout sur la prière. Je suis chrétien croyant et donc je passe beaucoup de mon temps à la prière aussi, à écouter les autres, à les aider à marcher sur la voie du Seigneur. Je peux en passant souligner que je suis du renouveau charismatique catholique et c'est là que je passe en tout cas beaucoup de mon temps pour la rencontre avec le Seigneur, aussi avec les autres humains. Perspective d'avenir, je pense encore poursuivre avec ce travail pour essayer d'aider mes collègues des Nations Unies à en fait accéder aux 10 normes minimales des UN Cares, mais aussi peut-être voir dans quels moyens nous pouvons aller plus haut, chercher à servir notre pays notamment, parce qu'il y a encore beaucoup à faire ici. Et donc, s'il faut revenir un jour au pays, ce serait probablement pour essayer de contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de la RCC.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
À vos carnets, voici les rendez-vous de la semaine. Le premier, des activités organisées par le HCRDC dans les écoles du territoire de Bouburu, dans la province de l'Équateur, en marge de la célébration de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Elles iront du mercredi 5 décembre 2013 au lundi 9 décembre. Deuxième rendez-vous, le 7 décembre, journée internationale des volontaires des Nations Unies. De cette émission, merci de l'avoir suivi. Je suis Mila Kimbouini, j'étais à la présentation avec l'assistance technique du côté de la régie de Patrick Kiasongwa. Nicole Ngaka en a assuré la supervision, Jean-Pierre Elali la coordination et Honoré Mitenga était au portage. Vous pouvez réécouter cette émission à tout moment sur notre site www.radiocapi.net. Vos questions, vos commentaires, envoyez-les-nous en nous appelant ou en nous envoyant un SMS à ce numéro 082 30 76 630. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur notre site en dessous de l'émission. Je rappelle, il s'agit de radiocapi.net. Notre adresse mail vous est ouverte aussi, c'est magun@radiocapi.net. Écrivez-nous, envoyez-nous vos questions, vos suggestions et vos commentaires. C'était un réel plaisir d'être des vôtres. À dimanche prochain. Excellente journée dominicale à tous.